Bienvenue à ce dernier grand jour du cycle des fêtes annuelles de Dieu. Un jour très spécial. C'est une fête différente de la fête des tabernacles. C'est la dernière du cycle annuel des sept fêtes de Dieu. Dieu a établi sept fêtes qui décrivent les sept étapes précises de son plan. On en a trois au printemps, quatre fêtes à l'automne, et chaque fête est une prophétie qui représente justement un événement annoncé d'avance. Dernièrement, nous avons célébré la quatrième fête du plan de Dieu, la fête des trompettes, désignant le retour prochain du Christ. Allez à Apocalypse chapitre 19. On va simplement voir le contexte de ce retour flamboyant du Christ, la description frappante de sa venue prochaine. Apocalypse 19, et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. C'est vous et moi si nous persévérons et qui devons nous vêtir des œuvres que nous devons faire, le fin lin. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, formidable, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Ça, c'est la fête des trompettes qui va se réaliser bientôt. Après ça, cinquième fête, nous venons de la célébrer il n'y a pas longtemps, fête des expiations, où Satan et ses démons seront liés et empêchés de nuire pendant 1000 ans. On n'y ira pas, mais vous pourrez lire Apocalypse 20, versets 1 à 3, où Satan et ses démons seront liés et les survivants de la Troisième Guerre mondiale n'auront pas à combattre Satan et ses démons comme nous avons à le combattre. Après ça, on arrive à la sixième fête de Dieu, la fête des tabernacles. Et cette fête-là sera pour tous ceux qui auront survécu à la grande détresse. Il y aura un certain nombre qui vont survivre. Ce ne sera pas de nombreux milliards de personnes. Parfois, on regarde ça et ça peut laisser entendre qu'il pourrait y avoir peut-être 10% de la population mondiale qui pourrait survivre à la grande détresse. Ces gens-là vont à ce moment-là être appelés, vont être enseignés, vont devoir faire les mêmes choix que nous devons faire et mettre en pratique les lois de Dieu. Et au bout du 1000 ans, là, on arrive à ce qu'on célèbre aujourd'hui, nous, la septième fête de Dieu, le dernier grand jour. Allez à Apocalypse 20. Apocalypse 20. Et ici, c'est intéressant, vous allez voir, on va trouver réponse à une grande question que de nombreux êtres humains se posent. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Et vous savez, la plupart des êtres humains sur la face de la terre, quelle que soit leur religion, ne comprennent pas vraiment ce qui nous attend. Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu, ni son plan. Mais ils auront l'occasion de le connaître. Qu'est-ce qui va arriver à tous les êtres humains qui sont morts depuis Adam et Ève jusqu'au retour de Christ? Est-ce qu'ils sont perdus à jamais? Non! ils auront leur chance de connaître Dieu, de comprendre son plan et d'y participer volontairement. C'est le sens du dernier grand jour, la grande résurrection de tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire au bout du premier mille ans du règne du Christ. Ça, c'est fantastique. Vous êtes déjà dans Apocalypse chapitre 20. Lisons les versets 11 et 12. Ça, c'est au bout du mille ans. Le Christ est revenu, on est au bout du mille ans. Et là, une autre étape commence. Puis, je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, le Christ, le roi des rois. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ça indique simplement qu'il y aura un changement total de la topographie de la surface de la terre. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, ceux qui sont morts avancés en âge, les enfants, ceux qui sont morts nés, ceux qui sont morts dans le ventre de leur mère, les grands et les petits. C'est le temps de la résurrection générale de tous ceux qui ont existé dans l'histoire et qui n'ont jamais connu le vrai Dieu. Je recommence la lecture du verset 12. Et je vis les morts, mais maintenant ils ne sont plus morts, là. Ils sont ramenés à la vie. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. S'ils sont devant le trône, c'est qu'ils sont vivants. Formidable, là on voit la description de ce qui va se passer. Et regardez après. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Quels livres? Les livres de la Bible. Ils n'ont jamais connu Dieu. Même ceux qui lisaient la Bible ne connaissaient pas le vrai Dieu et n'ont pas été appelés. Ces livres-là seront ouverts. Les livres que nous ouvrons quand Dieu nous appelle et que nous commençons à comprendre. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Voyez-vous? Ils vont devoir suivre le même processus que vous et moi, appelés maintenant, devons suivre. Ils auront la même occasion. Formidable. Alors, il dit, « Et je vis les morts, et à ce moment-là, comme je mentionne, ils ne seront plus morts, ils seront vivants, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts pour leur enseigner et leur donner le choix, comme nous avons le choix. » Et un autre livre fut ouvert. Quel livre? Celui qui est le livre de vie. Parce que ces gens-là se feront enseigner les vraies voies de Dieu, comme nous on se fait enseigner les vraies voies de Dieu. Ils devront faire des choix, lutter pour vaincre leur nature humaine et être baptisés, demander pardon à Dieu pour leurs fautes, recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains, et à ce moment-là, à leur tour, comme ceux qui reçoivent maintenant l'imposition des mains, leur nom sera écrit dans cet autre livre-là, qui est le livre de la vie éternelle. Parce que quand on reçoit l'imposition des mains d'un ministre après le baptême, on reçoit un dépôt du Saint-Esprit seulement. Et ce sera le même cas pour eux. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Maintenant, je fais une précision importante. Ces morts-là, ramenés à la vie, tous ceux qui ont existé dans le passé, vont être jugés pas sur ce qu'ils ont fait dans leur vie antérieure. On a tous été des pécheurs. Eux aussi. Mais ils seront jugés selon ce qu'ils vont faire avec ce qu'ils se feront enseigner. C'est là-dessus qu'ils seront jugés, qu'ils seront examinés. pour voir s'ils veulent vraiment obéir à Dieu. Alors, ils furent jugés, ils seront jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Comme nous, on voit ce qu'on doit faire en tant que chrétiens par ces livres-là. Ils vont suivre le même chemin exactement. Et après, regardez le verset 13. « La mer rendit les morts qui étaient en elle. » Et ça, c'est tellement encourageant. Parce que je connais des gens, et il y en a dans l'Église, qui ont perdu des membres de leur famille, et dans certains cas, toute leur famille, en mer, parce que leur famille a été noyée dans l'océan. Mais c'est intéressant de voir comment Dieu décrit les choses. Il n'oublie personne. Il dit, ceux qui sont morts noyés dans les océans seront eux aussi ramenés à la vie et ils seront avec les autres debout devant le trône de Christ pour apprendre les lois de Dieu et avoir la possibilité d'avoir accès à l'Esprit de Dieu et à la vie éternelle. Alors, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et après, regardez, là on va plus loin, on va après cette période-là. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est qu'à la toute fin de l'histoire humaine, au bout de cette dernière période-là, où les ressuscités de toute l'histoire auront leur chance d'apprendre les lois, à la toute fin, la mort sera détruite. Pourquoi? Parce que ce sera seulement des êtres spirituels qui vont rester. Il ne pourra plus y avoir de mort. Ce sera terminé. La mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang de feu, symboliquement, pour être effacés. Il n'y aura plus de mort. Il restera seulement la famille de Dieu. C'est la seconde mort. Maintenant, l'étang de feu. Quiconque, à ce moment-là, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie parce qu'il aura rejeté Dieu ou qu'il se sera détourné de Dieu, quiconque aura fait ça, son nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie et il sera jeté dans l'étang de feu pour être détruit éternellement. Par amour, parce que Dieu ne veut pas que cette personne-là soit malheureuse pour l'éternité et qu'elle rende les autres malheureux. Dieu est un Dieu d'amour et il se préoccupe de tout le monde. Maintenant, on va faire un petit voyage dans le temps. On va regarder un film ensemble. Projetons-nous dans 1000 quelques années d'ici. Le Christ sera revenu. On est 1000 ans plus loin, là. Le Christ sera revenu. Satan aurait été lié 1000 ans. Puis au bout du 1000 ans, il aurait été relâché un petit peu pour être finalement lié à jamais. Donc, dans notre film, le 1000 ans est passé. Et là, on arrive au début de la dernière période où il y aura des êtres humains physiques. Le dernier 100 ans de l'histoire humaine. Allons dans Ésaïe. Je vais vous montrer d'où on tire cette information du dernier 100 ans pour la grande multitude qui sera ramenée à la vie au début du dernier grand jour après le premier millénium du règne du Christ. Ésaïe 65, versets 19 à 25. Dieu dit, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ce sera terminé, les souffrances humaines. » Et regardez ce qu'il dit, ce qui va se passer durant ce 100 ans-là. « Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Ceux qui seront ramenés à la vie auront assez de temps pour prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir. Et en même temps, à cette période-là, le dernier 100 ans, le cycle des naissances, comme M. Armstrong nous a expliqué, sera interrompu. Les êtres humains qui vont vivre à cette époque n'auront plus d'enfants. Dieu met un terme à la composition de sa famille. C'est normal. Parce qu'au-delà de ça, comme j'ai mentionné, il ne restera que des êtres spirituels immortels. Tous ceux dans l'histoire qui auront été appelés, selon le plan de Dieu, à diverses époques, et qui auront vraiment pris l'engagement de vivre selon les lois de Dieu, et qui l'auront fait. Il va rester seulement ces gens-là devenus des êtres spirituels. Alors, c'est pour ça qu'il dit, verset 20, « Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans, c'est pour ça qu'on parle d'une période de 100 ans, celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Les gens auront encore le choix de faire le bien ou non. Et ceux qui feront le mal ne pourront pas avoir accès à la vie éternelle et seront éliminés à cause de l'amour de Dieu. Alors, on revient à ça. Début du dernier 100 ans de l'histoire humaine, autrement dit, au début de la réalisation de cette prophétie qu'est le dernier grand jour. Ce sera la résurrection à la vie physique de tous les humains de l'histoire humaine depuis Adam et Ève. Des milliards de personnes. Ils n'ont jamais connu le vrai Dieu. Ils n'ont jamais reçu son Saint-Esprit pour le comprendre et marcher dans ses voies. Mais ils seront ramenés à la vie parce que le dernier grand jour, c'est en même temps la fête d'un Dieu juste. La fête de la justice de Dieu. Il n'oublie personne. La même occasion d'être appelé, de connaître Dieu, de connaître ses lois, ses commandements, elle aura été donnée à tous les êtres humains qui auront existé dans l'histoire humaine. Le même appel. Je ne m'y reporterai pas, mais vous irez voir dans 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. Le but de Dieu, là, pour tous les êtres humains auxquels il a donné la vie, ça a toujours été le même depuis le début. Il n'a jamais changé. Je vous cite ce verset. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son espoir. Il sait que certains n'y arriveront pas. Pas parce que lui ne les aide pas, mais parce qu'ils vont choisir autrement. Mais son but, au point de départ, c'est que tous se voient offrir la vie éternelle et tous les moyens nécessaires pour y arriver. Formidable. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son but. Et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, après le premier millénium du règne du Christ sur la terre, tous les humains de l'histoire seront ramenés à la vie physique, comme Lazare. Même chose, à la vie physique. Et ils auront l'occasion, avec les livres qui seront ouverts, de connaître le vrai Dieu, son plan, et de se voir offrir la vie éternelle. On va voir maintenant une description impressionnante de cette résurrection générale de toute l'humanité qui aura lieu après le premier millénium du règne du Christ, au tout début de la réalisation du dernier grand jour. Allons maintenant à Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 37. Dieu a donné une vision au prophète Ézéchiel Et il lui a demandé de l'écrire dans un livre pour nous, pour que nous comprenions son plan. Alors, Ézéchiel, verset 37. Lisons le verset 1 et 2. C'est Ézéchiel qui parle. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Verset 2. « Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. » Des ossements très vieux. Pourquoi? Parce que ce sont les ossements de tous les êtres humains qui ont existé depuis Adam et Ève. Ce sont de vieux ossements. Par contre, écoutez, c'est une image symbolique, parce que même les ossements, après un certain nombre d'années, redeviennent en poussière. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a montré dans une vision à Ézéchiel une grande quantité d'ossements, puis en lui donnant ensuite l'image de ce qui va se passer le dernier grand jour, quand Dieu va ramener à la vie tous ceux qui ont vécu. Dieu n'a pas besoin d'avoir les ossements originaux de mes parents ou des autres qui sont morts pour bâtir les êtres humains. Le Christ s'est servi de terre pour donner la vie à Adam. Bon, continuons. Verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est mort des eaux. » Je répondis, « Seigneur, tu le sais. » J'imagine que pour le prophète, ça devait être frappant, là. Verset 4. Il me dit, « Prophétise sur ces eaux. » Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et le mot esprit ici vient du mot hébreu roi, qui veut dire un souffle. La même chose que quand le Christ a soufflé un souffle, roi, dans les narines d'Adam, lorsqu'il lui a donné la vie. Après, il dit, « Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Wow! Mettons-nous à la place de ces gens-là qui étaient morts, qui reviennent, qui sont debout et qui, là, réalisent qu'il existe un être merveilleux, le Dieu suprême, le Dieu de la vie, qui les a ramenés à la vie. Quelle surprise! Vous pourrez lire le restant, mais je vais vous lire un bout à partir du verset 11 à 14. Il me dit, fils de l'homme, ces os ou ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, comme si les ossements parlaient, là, bien sûr, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Et ici, c'est le Saint-Esprit, l'autre étape que Dieu va faire. C'est pas le souffle de vie, le roi, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu quand les gens vont avancer dans ces voies. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Quelle surprise pour tout ce monde-là, vos grands-parents aussi, vos chers disparus qu'on va retrouver à ce moment-là. L'étonnement de ces gens-là aussi, ils vont être étonnés. Les derniers moments de vie qu'ils ont eus, c'est quand ils sont décédés. Le film s'est arrêté là, quel que soit le nombre d'années qu'ils sont restés morts. Pour eux, c'est comme s'ils avaient dormi. En un instant, ils reviennent. Imaginez-vous l'étonnement et le questionnement aussi. Pensez, par exemple, à tous ceux qui croient qu'on est réincarné quand on meurt. Que lorsqu'on meurt, on est réincarné dans un cheval ou une mouche ou... vous pouvez choisir l'animal que vous voulez. Mais c'est pas vrai de toute façon. Mais ceux qui pensaient en mourant être réincarnés dans un animal, imaginez la surprise. C'est moi l'animal. Je suis pas réincarné. Ou bien tous les chrétiens sincères, comme j'étais avant, comme mes parents étaient, pensant qu'on irait au ciel ou en enfer. Ils seront à un ni l'autre. Ni un ni l'autre endroit. Ils vont être sur la terre. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Il y aura des questions, là. Ça se comprend. Il y aura des questions. Pensez aux musulmans qui se sont fait exploser pour Allah en espérant avoir la promesse d'avoir 70 vierges au paradis d'Allah. Premièrement, ils sont pas au paradis d'Allah. Et deuxièmement, ils n'ont pas 70 vierges. Ils sont physiques et là, il faut qu'ils commencent à apprendre une autre religion qu'ils étaient loin d'aimer, mais qu'ils vont apprendre à aimer. Et la réaction de tout ce monde-là, c'est qu'à un moment donné, ils sauront que Dieu est vivant, que l'Éternel existe. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Et là, ils vont faire un peu, je pense, comme Paul a fait. Quand Dieu l'a ébranlé, quand il l'a jeté en bas de son cheval, Paul a dit, « Qui es-tu? » Et après, il a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Ces gens-là seront tellement frappés par ce qu'ils vont vivre qu'ils vont demander, « Qui es-tu, Dieu? Dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu veux que nous fassions? » Et à ce moment-là, la famille divine va leur expliquer l'histoire, les lois de Dieu, l'histoire d'Israël et toutes ces choses-là, et là où on est rendu. Ils vont leur dire qu'il y a eu un 1000 ans aussi avant eux, où l'humanité survivante de la Troisième Guerre mondiale a dû apprendre les lois de Dieu et ses voies, comme eux. Alors, la famille de Dieu leur expliqueront qui est Dieu, qui est son plan, qu'est-ce que c'est la vie éternelle, et qu'ils peuvent y avoir accès, mais qu'ils doivent, eux aussi, mettre en pratique les lois de Dieu, célébrer ses fêtes aussi. Et c'est intéressant, ça me vient à l'esprit, parce que ces gens-là, qui seront durant le dernier 100 ans, durant le dernier grand jour, vont aussi devoir célébrer le dernier grand jour. Cette fête-là, c'est ça. Tout se tient dans le plan de Dieu. Dieu est un bon papa. Et Dieu a une famille. Il veut étendre sa famille. Et vous savez quoi? Comme Dieu est un père, et comme Dieu est une famille, ça ne me surprendrait pas, et dans le fond, je l'espère, que Dieu vous donne, à vous et à moi, si nous sommes fidèles, d'avoir la possibilité d'enseigner, d'expliquer les choses à nos chers disparus qui seront ramenés à la vie à ce moment-là. Dieu est un Dieu de famille. N'oubliez pas ça. Et je suis convaincu que Dieu va nous permettre d'enseigner nos êtres chers, de leur expliquer ce qui est arrivé dans l'histoire, leur montrer l'amour de Dieu. Tenez bon. Tenez bon pour eux aussi. Je vous dis pourquoi. Parce que eux, tous vos êtres chers décédés, là, eux, ils seront là. Les seuls qui peuvent ne pas y être, c'est vous et moi. Si nous abandonnons Dieu, si nous nous détournons de lui. C'est pour ça que je vous dis, vos êtres chers disparus seront tous ramenés à la vie à ce moment-là. Il faut que vous y soyez. Imaginez votre rencontre avec chacun des membres de votre famille décédée. Vos parents, vos grands-parents, ainsi de suite. J'ai envie de vous raconter une petite histoire qui est vraie. Ça concerne mon ami et mon collègue dans le ministère, M. Mike Alamila. M. Alamila vient d'un pays qui a un joli nom, qui s'appelle le Belize. Et à l'âge de 3 ans, il n'avait plus sa mère. Ce qui est arrivé, c'est que M. Alamila a été élevé par une vieille dame qui était une employée de son père. Bon, on continue. Et il s'est développé un attachement très fort entre M. Alamila et cette dame-là. Qui l'a pris sous son aile. Les années ont passé. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dame-là cherchait la vérité. Elle est allée dans différentes églises, mais n'a jamais trouvé de réponse, les réponses qu'elle cherchait. Mais cette dame-là, elle était illettrée. Elle ne savait pas lire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a demandé à son enfant adopté, M. Alamila, de lui lire la Bible. Chaque jour, il lui lisait la Bible. Voyez-vous comment Dieu travaille de loin? Comment Dieu amène ses enfants de loin à partir de toutes sortes de circonstances? Ça a pris du temps, M. Alamila, à comprendre la vérité. Mais il lisait la Bible. Et ça aidait cette vieille dame-là qui cherchait à connaître la vérité. En 1981, M. Alamila a immigré au Canada. Cette même année, sa vieille maman ou deuxième maman est décédée. Les choses ont resté là. M. Alamila a été appelé à l'église. Non seulement il est un membre, mais il est un ministre de l'Église. Et quand le dernier grand jour va se réaliser, la vieille maman de M. Alamila reviendra en vie. Elle revivra. Et vous savez quoi? J'ai l'impression qu'ils vont se donner une accolade assez spéciale. Et vous savez quoi aussi? C'est que M. Alamila pourra s'occuper de sa maman d'une façon spéciale, en lui lisant la même Bible, les livres, mais cette fois-là, en lui expliquant ce que ça veut dire. Et comme elle cherchait déjà tellement à comprendre Dieu, son cœur sera déjà bien disposé pour comprendre. Formidable. Formidable. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, et on va commencer à lire au verset 20. Ça décrit un petit peu l'histoire des étapes dans le plan de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. On voit ailleurs qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et pour naître de nouveau, c'est-à-dire pour naître en tant qu'être spirituel immortel, il faut naître d'entre les morts pour avoir la vie éternelle et recevoir la vie éternelle. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, le Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous les êtres humains seront ramenés à la vie et auront leur chance de choisir de suivre ou non Dieu. Mais chacun en son rang. Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est pour ça qu'il dit après, Christ comme prémisse. Le premier à être ressuscité, c'était le Christ. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, première résurrection. Ça, c'est les étapes en question. Verset 24. Là, on va plus loin dans le temps. Alors viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Ce petit bout-là arrive à la toute fin de l'histoire, après que le dernier 100 ans est passé, et que là, le Christ peut remettre le royaume à son Père, après avoir éliminé Satan, ses démons. Car il faut qu'il règne, verset 25, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et regardez comment c'est encourageant le verset 26. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. La mort n'existera plus. Parce que tous les êtres humains se seront vus offrir de choisir, et tous ceux qui auront choisi d'obéir à Dieu seront devenus des êtres spirituels et immortels. Là, je parle de tous les vainqueurs. Les vainqueurs de l'Ancien Testament, les prophètes, le roi David, Moïse, les serviteurs de Dieu du Nouveau Testament, Monsieur Appartient, Monsieur Armstrong et les autres, et nous, si nous tenons, ceux qui, dans le millénium, vont vraiment choisir d'obéir à Dieu, ce seront des vainqueurs, et ceux, durant le 100 ans, qui reviendront à la vie et qui choisiront eux aussi d'être des vainqueurs, tous ceux-là seront ensemble des êtres immortels. Et la mort n'existera plus parce qu'il n'y aura plus d'être humain physique. Désirez de tout cœur ce qui vient. C'est tellement grand. Ça dépasse l'imagination humaine. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Dieu nous l'a donné. Persévérez dans l'obéissance aux lois divines. Il y a une réalité merveilleuse qui s'en vient. Nous la célébrons aujourd'hui, le dernier grand jour après le premier millénaire du règne du Christ sur la terre. À ce moment-là, ce sera le plus grand rendez-vous. Ce sera le plus grand rendez-vous de toute l'histoire. C'est un rendez-vous que vous avez avec tous les membres de votre famille qui sont décédés. C'est ça, la réalité. les retrouvailles, des retrouvailles extraordinaires. Tous les êtres humains de l'histoire seront ramenés à la vie et seront réunis devant Dieu. Vous allez retrouver tous vos êtres chers, tous vos chers disparus. Mon épouse et moi, on parlait de ça ce matin. Nous, on a hâte de voir nos trois enfants qui ne sont plus là. Il y a trois grossesses qui ne sont pas, se sont pas rendues à terme. Et on sait que ces trois petits êtres-là avaient la vie depuis le moment où un spermatozoïde a touché l'ovule. C'est là que Dieu met son esprit, dans la vie qui commence. Alors, même si cette vie-là est arrêtée, ces petits-là seront ramenés à la vie. Dans quelles conditions? Je ne peux pas vous dire, la Bible ne le mentionne pas. Mais Dieu est puissant. Ce sera fait, et à ce moment-là, on aura à élever une autre famille. On va recommencer. Mais formidable! Dans des conditions extraordinaires. Mais mon épouse me faisait remarquer ce matin, on parlait qu'on va retrouver nos parents et nos ancêtres, mais elle dit, on va voir aussi ceux qu'on n'a jamais vus. Parce que ces bébés-là, on les a pas vus, nous autres. Alors, on va les voir pour la première fois. Et ça va être une expérience extraordinaire, j'en suis convaincu. Et je connais quelqu'un dans l'Église de Québec, une dame âgée qui ne peut pas venir aux assemblées. Elle est trop âgée, elle demeure très loin, mais son cœur est très proche de nous et très proche de Dieu. D'ailleurs, elle est probablement sur les médias pour recevoir le message d'aujourd'hui. Et je sais que chaque année, cette servante fidèle de Dieu rêve de retrouver sa petite fille comme aujourd'hui. Elle sait que c'est aujourd'hui que cette petite princesse sera ramenée à la vie. Une petite princesse qui s'est fait frapper par une voiture devant la maison de ferme sur la route à l'âge de 5 ou 6 ans. Elle est toujours restée dans son cœur. Mais la vieille dame qui est membre de l'Église n'avait pas de réponse pour l'avenir concernant sa petite princesse. Mais quand Dieu l'a appelée et lui a révélé la splendeur de son plan, comprenez-vous la joie qu'elle avait? Et comprenez-vous la joie qu'elle a à chaque début de dernier grand jour chaque année? Parce qu'elle sait que d'ici un certain temps, quand le dernier grand jour va se réaliser, elle va retrouver sa petite princesse et qu'elle va continuer avec elle les liens qu'elle avait établis, qu'elle va lui enseigner les livres de la Bible pour que sa petite princesse, en grandissant, mette en pratique les lois de Dieu et qu'elle soit aussi parmi les êtres éternels ensuite, avec Madame en question. Formidable! Moi, je pense à mon père. Moi, je pense à mon père beaucoup. À d'autres, bien sûr. Mais à mon père, beaucoup. Parce que je vais le prendre dans mes bras pour la première fois. J'ai jamais pris mon père dans mes bras. C'était pas notre façon de faire à la maison. D'ailleurs, à l'époque, moi je suis d'une autre époque, mon père est né à la fin des années 1800. Alors, à cette époque-là, les gens exprimaient moins leur affection. Ils pouvaient très bien aimer puis avoir soin des leurs, mais sans leur dire verbalement. Alors, c'est pour ça que j'ai jamais embrasser mon père, je l'ai jamais pris dans mes bras. Mais l'histoire n'est pas finie. Quand je vais le voir, je vais le faire. Et je vous raconte ça, je me rappelle, je lui ai touché une fois dans ma vie. J'ai touché à mon père affectueusement. Parce que c'était un homme admirable que j'appréciais beaucoup, qui m'a aidé et qui était impressionnant. Mais un jour, j'ai attendu qu'il soit vieux. Quand il était très vieux, un jour, il était assis dans sa berceuse, vis-à-vis de la fenêtre, dans la maison de campagne. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains, parce que j'aimais mon père. Et je me suis approché de lui, et j'ai caressé ses cheveux blancs derrière la tête un peu, sans rien dire. J'étais content. Je l'avais jamais fait. Mais là, je l'ai fait. C'est un tout petit début. Il ne sait pas ce qui l'attend. Alors, c'est comme ça. Et vous savez, quand Dieu va ramener mon père à la vie, moi, je vais avoir vécu, là. J'aurai vécu le 1000 ans du règne de Christ, l'âge que j'ai, plus les quelques autres années. Je vais pouvoir dire, « Papa, vous êtes jeune. » Vous avez un peu moins de 100 ans, mais moi, j'ai 1000 quelques années. Vous êtes jeune. Je vais vous montrer les livres de la Bible. Alors, au lieu que ce soit lui qui m'enseigne, parce qu'il m'a enseigné des choses bien précises et valables, là, ce sera moi qui aura le plaisir et le bonheur de lui montrer le vrai but de la vie. Mais, je vais plus loin. Parce que vous savez, j'ai l'impression que Dieu va m'accorder une autre bénédiction. Et sans doute à vous, si vous êtes fidèles. J'ai l'impression, Dieu est un Dieu de famille. Comme nous allons être des êtres spirituels divins, tout puissants, comme Dieu. Que Dieu va m'accorder la bénédiction de ressusciter moi-même, mon Père. Pensez-y. Rappelez-vous ce que le Christ a dit. Il a dit à ses disciples, « Vous trouvez que je fais des grandes choses? Vous allez faire les mêmes choses. Et même, vous en ferez de plus grande. » C'est ce que le Christ a dit. C'est pourquoi je me plais à rêver que je pourrais ressusciter moi-même ceux de ma famille. En tant qu'être divin, en tant que membre de la famille de Dieu. Formidable. Vous savez, Dieu nous a appelés pour des choses tellement grandes. Et avez-vous remarqué, au cours de cette fête et dans les mois que nous venons de vivre, comment Dieu nous révèle de choses? Comment Dieu se manifeste davantage? Comment il nous encourage de façon plus forte encore pour que nous réalisions qu'il nous a appelés pour un but extraordinaire qu'on ne peut même pas décrire totalement. Un peu comme Paul parlait dans un des messages qu'il a fait. J'ai vu des choses que je ne peux pas décrire. C'est formidable. L'appel de Dieu, il est grand. L'appel de Dieu, il est précieux. En terminant, allons à Romains chapitre 4, s'il vous plaît. Romains chapitre 4. Et lisons lentement le verset 17. Ici, Dieu parle à Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Parle à Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Notre père dans la foi, parce qu'Abraham a cru. Il dit, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts. C'est le sens de la fête du dernier grand jour. Il est en attente de pouvoir réaliser cette grande bénédiction. Qui donne la vie aux morts. Et regardez ce qu'il mentionne après. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est la puissance de Dieu. Parce qu'il est capable d'annoncer d'avance ce qui vient et de le faire arriver. Il est le seul être capable de faire ça. Il décrit d'avance les choses qui ne sont pas encore arrivées comme si elles étaient. Parce que pour lui, c'est comme si c'était fait. Il va faire tout ce qu'il faut pour offrir à tous les êtres humains ce dont ils ont besoin pour arriver à la vie éternelle. Chacun doit faire son choix. Mais son but, c'est que tous, si possible, ça ne sera pas le cas, mais si possible, parviennent à la vie éternelle. Mais pour lui, c'est comme si c'était déjà réalisé. Vous savez, Dieu a créé toute chose. Et dans le toute chose, Dieu a créé le temps et l'espace. Le temps et l'espace, ça va ensemble. Ça prend un certain temps pour aller du point A au point B dans la création physique. Mais Dieu est en dehors de ça. Il est en dehors du temps et en dehors de l'espace. Il peut y entrer lorsqu'il le veut, comme le Christ est venu dans la chair humaine. À ce moment-là, il est entré dans le temps, il y a 2000 ans, et dans l'espace, à Jérusalem. Mais le temps et l'espace ont été créés par Dieu. Et il est un Dieu tout puissant. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point il peut tout. Dernier verset, superbe. Matthieu, chapitre 22. Et nous allons lire à partir du verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, c'est de ça qu'on parle au dernier grand jour. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Rappelez-vous, Dieu est en dehors du temps. Il peut parler de ces trois patriarches-là comme s'ils étaient en même temps. Il voit l'histoire du point de vue de quelqu'un qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace. Je relis à partir du verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Verset 32, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et regardez la déclaration frappante sur laquelle je veux terminer ce message pour vous laisser entrevoir encore la puissance de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Pourquoi j'insiste? Parce que lui, étant en dehors du temps, il voit la fin de l'histoire. Et à la fin de l'histoire, tous ceux qui auront choisi de lui obéir seront des êtres immortels, seront vivants pour l'éternité. Et Dieu dit, « Je suis le Dieu des vivants. » Il aurait pu dire, « Je suis le Dieu des êtres immortels que je suis en train de préparer pour l'éternité. » Les êtres que j'appelle et qui ont besoin de changer et qui peuvent le faire avec mon esprit. Vous savez, le Dieu que vous et moi, nous avons le bonheur de servir, non parce que nous sommes plus intelligents ou quelque autre raison, Dieu a choisi de nous appeler. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais dans quel but. Mais pourquoi il n'a pas appelé mon frère qui était plus intelligent que moi ou meilleur que moi? Pourquoi il n'a pas appelé d'autres que moi? Dieu sait, mais il me donne un travail à faire. Et il vous donne à chacun et chacune un travail à faire. Le Dieu que nous servons, il est merveilleux, il est rempli d'amour pour chacun des êtres humains qui ont existé dans l'histoire, comme le prouve la fête du dernier grand jour. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et j'aime un de ses noms en particulier, parce qu'il s'appelle El Shaddai. Et il est le Dieu des vivants.